Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique. Au sommaire de cette émission Soft Power ce soir, les territoires d'Albert Camus, émission spéciale dans le cadre du festival Albert Camus, on l'appelle même Estival. Estival Albert Camus de Lourmarin, l'occasion du 60e anniversaire de la mort d'Albert Camus. Les territoires d'Albert Camus, ce sont les pays de son cœur, l'Algérie, la France, mais aussi l'Espagne et les pays qu'il a aimés ou dans lesquels son œuvre et son influence demeurent vives. Nous allons donc partir ce soir pour un long voyage. Nous serons aux États-Unis avec l'universitaire Alice Kaplan, spécialiste de Camus. Nous serons en Israël avec Denis Charby. Nous serons dans les pays arabes avec l'écrivain égyptien Ala al-Aswani. Camus espagnol et latino, nous en parlerons avec Maria Santos, auteur notamment de Camus, journaliste, et puis le Brésil de Camus. Nous rejoindrons Manuel da Costa Pinto, qui sera en direct de São Paulo. Il a publié plusieurs livres, dont un ouvrage sur le voyage de Camus au Brésil. Si on ajoute les territoires numériques de Camus, avec Marilyn Maisseau, qui nous rejoindra également, voilà pour le tour du monde de cette émission globale sur Camus ce soir, les territoires d'Albert Camus. J'ai également proposé à Georges-Marc Benamou d'être à nos côtés ce soir, fil conducteur, si on peut dire, de cette émission. Il est lui-même né en Algérie et il a réalisé récemment un très beau film sur Albert Camus, Les Vies d'Albert Camus, diffusé en janvier sur France 3. Bonsoir Georges-Marc Benamou.
Bonsoir Frédéric.
On vous connaît pour avoir été le patron de Globe il y a longtemps, l'un des confidents de François Mitterrand, le conseiller culturel hardi de Nicolas Sarkozy, l'auteur d'un très bon Si la gauche savait avec Michel Rocard. Comment devient-on camusien? Ou alors pour le dire autrement, est-ce qu'on est camusien ou est-ce qu'on le devient?
C'est une grande question. Je ne crois pas qu'il y ait d'adhésion sectaire à Camus. On n'est pas camusien comme on est
sartrien, justement, ouais.
Ou comme on est marxiste ou même comme on est aronien. Ça relève du domaine d'un engagement ou de la raison. En tout cas, pour moi, pour ce qui me concerne, je me suis trouvé dès la naissance, par mon éducation, par ma famille.
Parce que vous étiez né en Algérie.
Oui, mais pas dans n'importe quelle famille. Dans une famille, mon père m'a appris la fraternité avec les musulmans et les arabes.
Comme dans le premier homme.
Mon père a été l'ami de Mohamed Dib et il me l'a dit très tard, cet immense écrivain. Dans les années 50, il fonde un magasin de photos avec un musulman. Et l'antisémitisme qu'on connaît en Algérie, c'est celui des petits blancs ou de certains Espagnols. Donc je me suis trouvé familialement, de par aussi Hélène Sixou, qui est la cousine de ma maman, d'une famille républicaine de gauche, qui s'est trouvée de plein pied dans cette fraternité avec Camus. Donc voilà. Et puis plus tard, en raisonnant, en entendant des phrases aussi absurdes que « il vaut mieux toujours avoir raison avec Sartre que avec Aron » dans la première version, ou avec Camus, où effectivement on a envie contre le conformisme, les embrigadements et le totalitarisme, on se sent camusien.
Émission spéciale des territoires d'Albert Camus ce soir sur France Culture jusqu'à 19h45, exceptionnellement juste avant une soirée électorale municipale tout à l'heure. En début de programme ce soir, actualité numérique et culturelle avec Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir.
Rebonsoir Frédéric. En studio en direct.
Je suis là.
Sans oublier la chanteuse arabe Meryem Abouloua-Fa, voilà pour le sommaire Soft Power. Ce soir, cette dernière émission de la saison est réalisée par Perret Legras, qui aura été notre réalisateur tout au long du printemps post-confinement, avec en régie Élise Le. Soft Power jusqu'à 19h45 ce soir sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti. Un mot sur une enquête inouïe publiée à la une de l'Express cette fin de semaine. L'espion qui nous hackait. L'enquête est signée Emmanuel Paquette, chroniqueur régulier de cette émission, et nous sommes, en la lisant, sidérés et même paniqués. Selon les révélations de l'Express, la France aurait subi des attaques informatiques de grande ampleur menées par la Russie, était visé rien de moins que notre système de distribution électrique. Grâce à un malware, ce type de virus malveillant, il était possible pour les Russes de déclencher un blackout, donc un arrêt de notre réseau électrique. Cet acte de sabotage aurait pu être un véritable Pearl Harbor électrique français, comme le reconnaissent sous couvert d'anonymat généraux de la cyberdéfense et autres spécialistes du renseignement. Alors la particularité de ce type d'attaque, c'est ce qu'on appelle en français le prépositionnement, c'est-à-dire qu'on installe des virus malveillants mais qui dorment. Leur nom technique en anglais, APT, APT pour Advanced Persistent Threat, ce sont des sortes d'implants informatiques qui ne font aucun dégât et ne sont même pas visibles jusqu'à ce que, pour des raisons militaires ou politiques ou géopolitiques, en fonction de tel ou tel événement, la Russie, car c'est d'elle qu'il s'agit dans le cas d'espèce, mais ça pourrait être également la Chine ou la Corée du Nord, décide de les activer. Depuis une année, l'Express a enquêté sur cette attaque russe qui a eu lieu en 2018 et à lire l'article, on est tétanisé. Après le Covid-19 qui a paralysé notre pays, de telles attaques pourraient devenir une menace mondiale aux conséquences imprévisibles et beaucoup plus dévastatrices que ce qu'on n'a jamais connu. Si nos réseaux électriques sont menacés, pourquoi pas aussi nos réseaux d'eau, de téléphonie, de cartes bleues ou les transports publics, voire les tours de contrôle des aéroports ou même les centrales nucléaires, voire nos sous-marins atomiques, puisque tout cela fonctionne avec de l'informatique. On imagine sans peine les conséquences. Le problème de ce type d'attaque sophistiquée menée ici par des États, c'est qu'il semble difficile de les éviter ou en tout cas de les identifier à l'avance avant qu'elles ne se déclenchent. Le même groupe de hackers russes qui serait, comme par hasard, installé dans un bâtiment tout près de la Place Rouge et qui a tenté de hacker notre système électrique aurait également pénétré dans le passé la Maison Blanche ou le département d'État américain, confirme l'Express, ce qui montre le professionnalisme de ce type d'équipe. L'équipe de hackers russes a également déjà bloqué la distribution d'électricité en Ukraine, privant pendant quelques heures 1,4 million d'habitants de courant. Le système de gazoduc américain avait également été visité et, disons, visé. Les États-Unis ont déjà annoncé leur intention de répliquer coup par coup dans ce genre de menaces, face à ce genre de menaces, œil pour œil, je dirais virus par virus, soit ce qu'on pourrait appeler une dissuasion non pas nucléaire, mais une dissuasion informatique. À côté, le 1984 d'Orwell joue petit bras. La France, à ce stade, ne semble pas prête à la riposte, à moins qu'elle n'en soit pas capable, ou alors qu'elle ne le dise pas. Néanmoins, Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'est entretenu longuement ce vendredi avec Vladimir Poutine, et vient d'ailleurs d'accepter son invitation à se rendre cet été à Moscou, aura sans doute l'occasion, loin des caméras, d'évoquer avec lui ces cyberattaques made in Russie, et tenter de le dissuader pour éviter les guerres mondiales du futur. L'espion qui nous hackait, une enquête d'Emmanuel Paquette à lire, et c'est à la une de l'Express ce week-end. Rebonsoir Zoé Sfez, politique de la culture pour commencer cette émission, politique de la culture avec l'actualité du moment. Et d'abord cinéma, le cinéma qui se déconfine difficilement, à petits pas en France, et d'autant plus que ce qu'on appelle le lockdown aux États-Unis se poursuit, au moins dans les têtes, en Californie, ce qui affecte du coup Hollywood et par ricochet le cinéma français.
Et oui, on a donné des nouvelles du cinéma quasiment toutes les semaines dans Soft Power depuis la fin de cette crise du Covid, ou en tout cas depuis cette crise du Covid. Et donc, il était temps de prendre des nouvelles des salles de cinéma françaises qui ont donc rouvert cette semaine, c'était lundi, avec un bilan quand même très très lourd pour le cinéma français, puisqu'on aurait perdu en 3 mois de lockdown 60 millions d'entrées, si on se fie aux chiffres de l'année dernière, ce qui correspond à 400 millions d'euros de pertes pour les exploitants et évidemment pour toute la chaîne du cinéma. Et donc, il y avait un vrai enjeu à savoir si on arrivait à renouer avec le public. Journée de lundi extrêmement réconfortante, les cinéphiles étaient dans les salles, assez nombreux, mais on savait chez les exploitants que ça ne voulait rien dire, et de facto ce qui s'est passé c'est que dès mercredi la fréquentation s'est plus ou moins effondrée, elle est globalement plutôt pas très bonne en cette fin de semaine et ce week-end aussi. Pourquoi? Alors la question se pose d'une part parce que on peut se poser la question des films qu'on pouvait voir. Beaucoup, beaucoup de films, 37 films à voir cette semaine, c'était beaucoup, c'était sans doute beaucoup trop d'ailleurs, avec beaucoup de ressorties, donc des films qu'on n'avait plus très envie de voir, qu'on attendait moyennement, puisqu'on avait déjà eu un petit peu d'appétence pour eux avant, ceux qui étaient sortis juste avant le lockdown, quelques films de patrimoine, Elephant Man de David Lynch, mais le tout avec des sorties de salles très éparpillées, on pouvait voir des choses à Paris qu'on ne pouvait pas voir en province, et puis cette attente de blockbuster qui n'a pas eu lieu, on savait qu'elle n'aurait pas lieu pour les premières semaines, et on sait désormais que les grosses têtes affiches américaines, elles, ne viendront pas. Elles étaient attendues pour début juillet. Alors, il y a cette vraie question, est-ce qu'on va arriver à sortir de ce cercle vicieux où, comme il n'y a pas de vraie attente sur les films, il y a peu de spectateurs, comme il y a peu de spectateurs, les distributeurs sont très frileux à remettre des films importants. Ça, c'est la problématique française, mais à ça s'ajoute une problématique américaine. On l'a vu cette semaine, Mulan de Disney, donc adaptation du dessin animé en prise de vue réelle, qui était attendue pour début juillet et reportée à la mi-août, et pareil pour le 21 août, exactement. Tenet, même date, Tenet, c'est le gros prochain Christopher Nolan, qui lui aussi devait sortir cette fois-ci fin juillet et qui est lui aussi reporté à plutôt fin août. Alors là, il s'agit d'une autre problématique, vous l'avez dit Frédéric, la problématique qui est qu'aux États-Unis on n'est absolument pas sorti de la crise du Covid, que par ailleurs, Hollywood, précisément Los Angeles, sont des foyers extrêmement actifs de ce Covid et que, on le sait, les studios américains ne vont pas sortir ces films simplement pour l'Europe et pour les marchés européens. Ils vont attendre un public américain qui doit revenir en salle. On doit donc compter sur une plus grande désirabilité du cinéma français et on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment de films qui puissent se distinguer dans les semaines à venir. En fait, ce qu'on comprend, c'est que la reprise, la vraie, elle aura lieu à l'automne, quand, on l'espère, les États-Unis se seront déconfinés, quand les grands blockbusters, eux aussi, se seront déconfinés, et quand on pourra peut-être mettre en place une politique de fête du cinéma décalée. C'est ce que demandent les exploitants aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir transvaser la fête du cinéma qui a en général lieu en ce moment, en juin, en septembre, pour permettre aux Français de reprendre de bonnes habitudes cinématographiques. La seule bonne nouvelle, et on va terminer là-dessus, c'est que si le monde du cinéma est un peu comme ça, coincé à l'heure américaine, hein, c'est un petit peu la problématique, l'année à venir, en tout cas 2021, qui sera la grande année si on le veut, se présente bien. Le cinéma n'est pas mort, comme le craignait Anaïs Dumoustier, qui est dans l'un des derniers épisodes d'Imagine la culture demain, qui vous était présenté par Arnaud Laporte dans la matinale. Pourquoi ? On le sait parce que cette semaine se tenait pour la première fois, et on en a parlé, de son histoire, le marché du film de Cannes. Vous savez que c'est là où se passent les choses les plus importantes à Cannes en dehors du festival, les distributeurs qui s'achètent des films entre eux. C'était une édition numérique, elle a eu lieu de lundi à vendredi. Eh bien, elle a plutôt extrêmement bien marché, le bilan est fragile, mais les films se sont bien vendus. Les États-Unis, l'Amérique latine a beaucoup acheté de films français, européens. On l'a dit, la crise est loin d'être finie, mais c'est le signe qu'en tout cas, s'il n'y a pas vraiment encore de présence au cinéma, il y a toujours chez tout le monde un désir de cinéma.
Autre actualité, Zoé Sfès, non sans lien avec le cinéma, le groupe audiovisuel français Media One monte en puissance en rachetant Lagardère Studio et s'affirme comme un géant européen, c'est-à-dire d'ailleurs dans le JDD ce matin avec une interview des fondateurs et des patrons de cette structure, à savoir Pierre-Antoine Capton associé avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Nous créons des marques mondiales, déclare-t-il.
Oui, alors c'est intéressant de se pencher sur le destin de ce groupe que le grand public probablement ne connaît pas. C'est intéressant de regarder ce groupe qui s'est donc lancé en 2015. En 2015, Xavier Niel, qu'on connaît bien, fondateur de Free, Mathieu Pigasse, ancien banquier de la Banque Lazare et qui s'est aventuré dans des aventures de la presse, s'associe à Pierre-Antoine Capton, que vous connaissez peut-être pas, chers auditeurs, qui lui est producteur et fondateur d'une société de production importante en France, c'est Troisième Œil, qui produit notamment C'est à vous sur France 5.
Mais aussi C'est dans l'air, les carnets de Julie,
que vous connaissez bien, c'est délicieux.
Alors, je voulais absolument les caser, les carnets de Julie.
On les a bien regardés pendant ce confinement. Alors en se lançant avec ce groupe, ces trois hommes, en 2015, affichaient une volonté à ce moment-là assez discrète, de devenir, alors ils appelaient ça un champion français puis européen, non pas de la distribution, non pas des tuyaux, non pas de la plateforme, mais des contenus, des catalogues audiovisuels. Et on le sait, c'est le nerf de la guerre. 2015, c'était le moment, rappelez-vous, où Netflix se lançait en France, et ça n'est absolument pas anodin. Un groupe qui avait levé à l'époque 250 millions d'euros lors de son introduction en bourse, c'était quelques mois plus tard, en avril 2016. Alors en 2017 déjà, ils avaient fait un gros coup, ils avaient annoncé ces 8 acquisitions d'un coup. Parmi ces 8 acquisitions stratégiques, on avait le catalogue d'AB Productions, groupe européen assez important, avec aussi des bases leaders, des segments sur des contenus originaux en fonction. Donc c'est eux qui ont racheté les studios qui produisent Apocalypse, la série 10%, Le Nom de la Rose, l'exploitation de marques d'animation aussi, Le Petit Prince, Miraculeuse, et la distribution de contenus audiovisuels avec Section de Recherche, la série Alice Nevers, et puis l'édition de services digitaux, Toute l'Histoire, RTL9, etc. Et là, le 22 juin, rebelote, annonce massive d'acquisition, avec clairement une annonce extrêmement impressionnante, avec un changement de statut, c'est-à-dire qu'on crée, je ne vais pas vous faire les détails boursiers, mais c'est quand même intéressant, création de Media One Alliance, qui lance une OPA sur le groupe Media One. C'est une manière de faire monter un peu la valeur de tout ça, et surtout
de s'auto-acheter
et de s'auto-faire monter sa valeur. Le tout en emportant, comme ça, sous la main, les studios Lagardère. Studio Lagardère, qu'Arnaud Lagardère essaye de vendre depuis maintenant, on le sait, plusieurs dizaines de mois, à peu près un an, qu'il espérait vendre à 200 millions d'euros. Vraisemblablement, selon les informations qu'on a, eh bien, c'est MediaOne qui s'en empare pour 100 millions d'euros seulement. Pourquoi c'est important de s'attarder sur ça? Eh bien, parce que les studios Lagardère, c'est une production, c'est de la production et de la distribution de contenu en Europe, en Afrique, avec une présence à la fois en France, en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas. Donc c'est extrêmement important pour ce groupe qui bénéficie de relations de long terme avec à peu près tous les diffuseurs de ces pays. Il y a 25 labels de production. Je vous fais un tout petit peu le détail de ce catalogue parce que c'est intéressant. Des labels de production qui peuvent produire des marques de fiction très classe comme The Eddy, vous savez, cette série sur les jazzman français réalisée par Damien Chazelle qu'on peut voir sur Netflix. Il y a aussi Joséphine Ange-Gardien dans un tout autre registre. Et également des séries comme toujours Grégory, mais surtout des programmes de flux. Ça, c'est une vraie nouveauté qui viennent beaucoup enrichir ce qu'avait déjà, donc on l'a dit, MediaOne avec Troisième Œil, des programmes de flux comme C'est dans l'air, comme Ça commence aujourd'hui sur France 2, vous savez, c'est l'émission de témoignages qui a pris le relais de l'héritage de Jean-Luc Delarue, Recherche maison appartement sur M6, etc. C'est un catalogue de 10 000 heures au total. Et par ailleurs, toujours dans le même coup, et on terminera là-dessus, MediaOne aussi s'est allié avec un studio espagnol, studio Leonine, qui est un studio de série extrêmement important en Espagne. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, ça veut dire que on est sur clairement une visée de devenir à la fois un studio pan-européen, et d'ailleurs c'est ce que disent les trois fondateurs dans cet article, et puis effectivement un distributeur de contenu qui pourra interagir autant avec les chaînes qu'avec, on l'a dit, et on sait à quel point elles pèsent aujourd'hui, toutes les plateformes.
Enfin, Zoé Fès, changement de tête dans l'audiovisuel public, ou du moins européen. Je veux parler de la nomination cette semaine de Bruno Patino à la tête d'Arte France.
Exactement. Alors, il prend la suite de Véronique Keila, dont les fonctions cessent le 4 juillet, puisque le lendemain, le 5 juillet, elle aura 70 ans et que c'est la limite d'âge en vigueur pour Arte. Bruno Patino, faut-il le rappeler, à 55 ans, c'était le directeur éditorial de Arte France, donc le chargé des contenus de la chaîne. C'est un homme qui a d'abord été journaliste au Monde, puis qui a été responsable du Monde Interactif, avant par ailleurs de prendre la direction de France Culture, puis il est devenu numéro 2 de France Télévisions. Ça faisait plusieurs années qu'il travaillait donc à Arte France en termes de directeur éditorial, et on lui doit quelques très beaux coups, des séries remarquées, Il Miracolo de Niccolo Amanti, Goulag, une histoire soviétique qui a extrêmement bien marché, qui était une série documentaire. Bruno Patino qui en fait, et on le sait, a une réflexion assez longue, de long terme, sur la question du temps long, sur la question de la manière dont les contenus peuvent exister. Il a signé un livre chez Grasset l'année dernière, La civilisation du poisson rouge. On l'avait reçu ici, Frédéric Martel, pour ce livre qui effectivement essaie de décrypter le fonctionnement de cette économie de l'attention dans laquelle nous vivons tous, et dit donc vouloir continuer ce travail engagé par Véronique Keila sur la question du temps long, la réflexion pour Arte. Il hérite, c'est ça, il faut le rappeler, d'une chaîne qui va extrêmement bien puisqu'elle a des audiences qui sont en progression constante depuis 10 ans, avec des productions quasiment uniquement saluées. Il prend donc la tête d'Arte France. Il y a de grandes chances qu'il prenne la tête d'Arte tout court à la fin de cette année, puisque vous le savez, ce sont des règles d'alternance entre la France et l'Allemagne. C'est, pour une pure raison de calendrier, théoriquement Bruno Patino qui prend la tête du groupe à la fin de l'année.
Voilà, Bruno Patino, notre ancien directeur ici à France Culture. En prélude, dans un instant, de notre émission spéciale Les Territoires d'Albert Camus, et tout ça à 18h30 en direct sur France Culture, une voix qui vient du Maghreb et que l'on a envie d'adopter sur le champ. Meriem Abouloafa, née en 1988 à Casablanca, à la fois une musicienne et une architecte d'intérieur qui chante en arabe, en anglais ou en français, avec des mélanges électro et arabe dans ce nouvel album hybride sorti en juin. Breath of Roma, c'est le titre que l'on écoute, on y entend les cultures se marier et se mêler avec un hymne à la Méditerranée, peut-être celui de noces ou du premier homme, et en tout cas avec toutes ses lumières.
Blow softly on my heart, oh soft wind coming from the past, Roman and Ottoman, from mountains and to the rotten trunks, this is the breath of Roma. Thank you.
18h32 sur France Culture.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Soft Power, émission consacrée ce soir à Albert Camus, les territoires d'Albert Camus. Et comme on est dans une émission qui s'appelle Soft Power, nous allons essayer de regarder Camus à travers un œil international, global, pour savoir comment il est reçu, comment il est compris à travers le monde. Et nous serons au cours de cette émission, qui va durer jusqu'à 19h45, donc un peu plus d'une heure et quart encore. Nous serons aux États-Unis, en Amérique latine, au Brésil, nous serons en Espagne, nous voyagerons en Israël, ou encore avec l'écrivain Alal Al-Swani, grand écrivain égyptien, pour suivre Camus à travers ses territoires. Georges-Marc Benamou est avec nous en direct. Rebonsoir, monsieur.
Rebonsoir.
J'aimerais avec vous commencer finalement par l'Algérie, parce que non seulement c'est un pays vous êtes né vous-même, mais c'est évidemment central dans l'œuvre et dans le parcours d'Albert Camus. On reviendra sur la guerre d'Algérie dans un instant, mais peut-être commençons par les origines de Camus, que vous avez bien décrit dans un film que vous avez produit, diffusé ce mois de janvier, Les Vies d'Albert Camus. L'Algérie, c'est des origines, comment dire, humbles, prolétaires, orphelin de père, pupille de la nation, né dans une famille d'illettrés, c'est ça Albert Camus à l'origine?
Oui, c'est cette image qui ne cadre pas finalement avec l'image du colon pied noir, hein, l'imaginaire un peu simpliste. C'est une famille extrêmement pauvre qui partage la vie du prolétariat de ce quartier, du prolétariat arabe aussi, de ce quartier de Bellecour. C'est les petits blancs les plus pauvres.
C'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'avait pas la culpabilité du colon, du
non.
coup.
Une mère qui est très handicapée, qui a des problèmes d'élocution, dont d'ailleurs les biographes s'expliquent sur la raison pour laquelle elle a eu ces problèmes. Un père qui est mort quand il a un an, donc il a
mort
cette
la guerre,
bataille de la Marne. Donc c'est un, imaginez, le père ne connaît pas la France, il débarque, il se fait tuer. Enfin, il y a un rapport à la France quand même, et donc il a un an, ce père-là, et cette femme, Madame Camus, Albert et son grand frère sont des misérables qu'on va recueillir, qu'une autre famille misérable, la grand-mère va recueillir, et cette grand-mère est une matrone qui va maltraiter la mère et éduquer les deux enfants, Albert et Lucien, à la baguette. Et Catherine Camus, dans le film que j'ai fait, raconte que finalement cette femme très dure, la grand-mère qui les terrorise, qui les mène à la baguette, elle n'avait peut-être pas d'autre choix pour faire tenir, pour ne pas couler. Ils ne pouvaient pas manger à leur faim.
Ben, c'est cette misère-là. On la retrouve dans Le Premier Homme, livre de 1994.
Et Le Refus de la Culture.
Et le refus,
il est doué, dit l'instituteur. Non, il n'ira pas travailler, il n'ira pas à
l'école. Donc, au fond, comme le dit l'un de ses biographes intellectuels, Roger Grenier, il va devoir se battre pour conquérir le droit à la culture.
Ben, c'est d'abord Monsieur Germain. Cette scène absolument mythique, cet instituteur qui, lorsqu'il a 12 ans, dit, mais écoutez, je l'ai fait travailler, il est vraiment très doué, je vais lui avoir une bourse, il va pouvoir passer un examen, il aura du travail, madame. Et il affronte la grand-mère. Et la grand-mère ne veut pas, non, il ira travailler comme Lucien, comme ouvrier, etc.
Ça rappelle un peu Isambard pour Rimbaud, c'est-à-dire.
Absolument. Et il y a une bataille. Et Monsieur Germain gagne cette bataille. Et ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape qui va l'amener vers l'écriture, c'est très étrangement la tuberculose. Il entre au lycée, et au lycée, comme le dit là encore Catherine Camus, c'est des bourgeois, c'est des fils de colons. Et lui, il est tout petit, on l'appelle moustique, il est plus petit, il est plus pauvre, il est plus complexé. Et il va avoir une intégration difficile, et c'est la tuberculose qui va le frapper. Et qui va le mettre dans cet état de création. Et c'est le deuxième relais, c'est son prof de philo qui vient le sauver et l'amener vers la culture.
Jean Grenier.
Donc il a comme ça des repères qui viennent le sortir de cette misère terrible. Et c'est un combat. Donc ça éclaire beaucoup les futurs débats sur la question algérienne ou voir la question de la polémique avec Sartre. Enfin, c'est pas le prolétariat, c'est le lumpen prolétariat qui d'ailleurs se vit à côté sur la question coloniale, à côté des Arabes. Ne les opprime pas. c'est une situation très étrange.
Mais juste avant d'en venir à ça, on a un jeune Camus qui est déjà un peu nietzschéen. Il adore, il se retrouve dans Ainsi parlait Zarathoustra, aussi dans La ferveur du gide des nourritures terrestres. Il y a un côté un peu, il a un côté déjà un peu dandy, homme à femme, déjà jeune, et en même temps, qui mène déjà une vie de bohème, assez vite entouré de lesbiennes, comme ça.
C'est incroyable. Alors ça, c'est la, cette partie de bohème de la vie d'Albert Camus était présente dans les deux biographies, trois d'ailleurs,
que vous avez utilisées,
sur lesquelles j'ai travaillé.
Lesquelles sont-elles?
La biographie d'Herbert Lotman, qui est la première de cette immense biographie.
Au Seuil,
ouais. Au Seuil. Le deuxième travail, c'est la très grande et belle biographie d'Olivier Todd, parue en 95 chez Gallimard. Et puis, une biographie livre, en fait, c'est le travail d'Alice Cablan, qui est en fait une biographie qui est son travail historique. Je crois que vous la recevez tout à l'heure sur
l'étranger. Dans un instant, elle nous rejoint.
La fabrication. Donc, c'est cette bohème qu'il connaît à la vingtaine, où il est finalement un être absolument solaire, malgré la tuberculose, et il vit une bohème entourée de Christiane Galindo, qui est une belle brune, qui travaille dans un syndicat agricole, je crois, où elle passe ses journées finalement à lui taper ses textes. Il vit avec Marguerite Daubresne, et qui vit en couple avec une autre amie, et ces deux lesbiennes en pleine année 20, dans une Algérie hyper réactionnaire, et ils se louent une petite bicoque, tous les trois, tous les quatre, et ils vont mener une vie de bohème, effectivement, assez gidienne, le soleil, la sensualité, l'amitié, et c'est assez contradictoire d'ailleurs, cette liberté, avec le soi-disant machisme de Camus, parce que les relations les plus intenses, j'ai écouté tous les enregistrements de ces conversations avec Marguerite Daubresne et Jeanne Sicard, qui sont hélas décédées, mais que ces enregistrements que Todd m'a confiés, il y avait une grande intensité, une grande proximité. Elles lui ont ouvert le monde des femmes. Enfin, c'est pas un macho dans cette relation avec ces deux femmes. Et ça éclaire Camus avec beaucoup de finesse.
Je cite cette phrase, c'est dans la correspondance avec René Char. Camus écrit « La vérité est qu'il faut rencontrer l'amour avant de rencontrer la morale, ou sinon les deux périssent. La terre est cruelle, ceux qui s'aiment devraient naître ensemble, mais on aime mieux à mesure qu'on a vécu, et c'est la vie elle-même qui sépare de l'amour. Il n'y a pas d'issue sinon la chance, l'éclair ou la douleur. » Correspondance Albert Camus, René Char, 46-59, c'est publié chez Gallimard. Nous sommes par téléphone justement avec Alice Kaplan, professeure à Yale, à New Haven, aux États-Unis. Bonsoir, madame.
Bonsoir, Frédéric.
Alors, j'aimerais commencer par peut-être par votre travail sur Camus, notamment Enquête de l'étranger, un ouvrage publié chez Gallimard en 2016. Vous écrivez que l'étranger, encore aujourd'hui, demeure aussi impénétrable qu'il l'était en 1942, avec ses images à la fois ordinaires et inoubliables, et malgré tout, son succès mondial durable.
Oui, alors, c'est un texte qui change de sens pour toute génération. Et je ne résiste pas au désir de citer le mouvement Black Lives Matter, parce que c'est là, avec ce meurtre, ces coups de feu en illégitime défense, que nous pouvons lier ce qui se passe maintenant aux États-Unis à ce texte, comme nous pouvons lier la peste à ce qui se passe maintenant. Alors, Camus a une actualité certaine aux États-Unis qui ne cesse d'évoluer.
Alors, on annonce une retraduction de La Peste pour Knopf, je crois, par Laura Maris. Actuellement, avec l'éditeur américain Knopf, vous sortez deux volumes en août, Personal Writings et Committed Writings, pour mieux, comment dire, présenter l'œuvre de Camus. Et puis, en même temps, pour University of Chicago Press, vous préparez une nouvelle édition des carnets de voyage avec iconographie.
Oui, enfin, ce serait peut-être le moment d'évoquer la seule visite que Camus a faite aux États-Unis en mars 46. Il débarque et après un long entretien avec le service d'immigration qui
le soupçonne d'être communiste, non, quasiment.
Oui, exactement. Il y a même un rapport du FBI qui est assez drôle parce qu'il cite un article de Hannah Arendt sur les existentialistes, pour dire qu'il n'est pas communiste. En tout cas, il se rend à New York. Et là, je pense qu'il est vraiment sonné par tout ce qui est lumière, par tout ce qui est consommation, même la laideur, enfin, après ces années d'occupation en France, ces années noires. Et il soupçonne les Américains de ne pas avoir trop d'idées, d'être naïfs. Enfin, il rencontre des jeunes. C'est un texte remarquable que ces carnets.
Il fait une conférence, notamment, il vient aux États-Unis à cause ou pour la traduction de L'Étranger. Sa conférence a lieu à Columbia Université, à Crise de l'Homme, puis sa tournée de conférences un peu partout. Il est missionnaire sous les auspices des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis, dont le conseiller culturel est Claude Lévi-Strauss.
Oui. Et ce qui m'avait intéressé aussi, c'est que, bon, c'est pour la lancée de... C'est pour l'apparition de L'Étranger qui vient aux États-Unis en partie. Mais il s'intéresse plus à L'Étranger, il est dans autre chose. Il est passé au cycle de la révolte, si vous voulez. Il est en plein dedans, dans la peste. Et il en parle beaucoup dans cette conférence qui s'appelle « La crise de l'homme ».
Comment se passe la réception de son œuvre aux États-Unis, qui est déjà une longue histoire, hein, dont on peut faire émerger, on pourrait dire, trois temps avec vous. D'abord, l'engagement des années 60, ensuite les coloniales et puis les post-colonial studies, enfin la peine de mort. Commençons par l'engagement des années 60.
Oui, enfin, je pense qu'il faudrait commencer par l'après-guerre et par une génération même d'intellectuels qui sont très attirés par l'existentialisme. Donc, toute une génération de jeunes Américains lisent L'Étranger en tant que manuel sur l'existentialisme, avec Sartre, avec Beauvoir et parfois avec Malraux. Alors, on ne fait pas du tout attention au fait que Camus est né en Algérie. Ça n'entre pas. Son contexte particulier, comme si Le Havre et Alger étaient la même chose. Ensuite... dans les années 60, on s'accroche à Camus comme quelqu'un d'engagé. On ignore le fait qu'il y a eu rupture avec Sartre. Je pense que la seule intellectuelle américaine qui s'en rend compte, c'est Susan Sontag, qui a l'oreille vers Paris et qui sait que Camus n'est plus politiquement correct. Mais pour la plupart des gens, Camus reste vraiment héroïque. Des hommes politiques comme Tom Hayden, des radicaux des années 60, le cite l'homme révolté. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a autour de 78-80, il y a le grand livre, l'ouvrage de Edward Said, l'orientalisme. Et Said va dire de Camus qu'il a effacé les Arabes. Et que le contexte d'Alger ne sert qu'au décor pour sa métaphysique européenne.
Vous avez Alice Kaplan, vous avez signé justement la préface aux chroniques algériennes de Camus. Comment est-ce qu'il est perçu à partir de ce moment-là, donc post-Saïd, dans le débat sur l'identité, le racisme et finalement les idées post-colonialistes, pour terminer?
Oui, enfin, il a été très très mal vu pendant un moment. Et puis, quelque chose s'est passé, et je pense que Monsieur Benamou en parle très très bien, c'est que on a lu Le Premier Homme. On a lu Le Premier Homme en 94, et on se rend compte de la complexité des origines de Camus en tant que pied noir extrêmement appauvri, qu'il n'est pas du côté du colon. Et qu'on est, comme Asia Djebar avait dit à l'époque, on est invité chez lui par ce texte. Donc, on a beaucoup apaisé, les attaques contre Camus sont beaucoup apaisées maintenant. Je pense qu'on le voit de façon plus compréhensive.
Et puis, il y a son opposition à la peine de mort qui lui a rallié plus récemment tout un tas d'opposants américains à la peine de mort, nourrie à la fois par L'Étranger et sa réflexion, bien sûr, sur la peine capitale.
Il y a un très beau documentaire de Joël Calmette avec un entretien de quelqu'un qui a lu Camus. Il était exonéré, il était condamné à mort et il disait qu'on lisait Camus dans le couloir de la mort. On lisait à la fois L'Étranger et Réflexion sur la guillotine. C'est un texte dont nous avons toujours besoin aux États-Unis.
Merci infiniment Alice Kaplan. Je rappelle que vous êtes professeure à Yale, à New Haven, où vous étiez en direct par téléphone depuis les États-Unis. Georges-Marc Benamou, elle citait, Madame Kaplan, quelques références. On ne va pas revenir sur tout ça, mais venons-en peut-être à la guerre d'Algérie, qu'on a insuffisamment évoquée juste avant, qui est amorcée par son rapport au Parti communiste d'abord, son rapport aussi, d'une certaine manière, à un théâtre très politique, le théâtre du travail, le théâtre de l'équipe ensuite. Et très vite, le projet Bloom-Violette pour donner des droits aux Algériens, que vous évoquez dans votre film, projet avorté, on le sait, en 1936, mais auquel lui, il croit.
Il est l'une des raisons pour lesquelles il entre au Parti communiste et il en sort au terme d'un procès stalinien. Il a pendant l'année 37-38 des vraies responsabilités, un engagement. Mais finalement, la raison pour laquelle, au fond, et c'est ce que disent ses biographes, on va virer Camus dans ce parti, le parti de Torres, le parti de Staline, d'une certaine manière, c'est que le parti n'est pas pour l'indépendance. Le parti le juge suspect car il fréquente trop les nationalistes arabes. Donc imaginez, et le Parti communiste va rester jusqu'aux années 50, très tardivement, dans cette ambiguïté sur la question de l'indépendance. Oui, alors il est sur l'Algérie, sur une position où, effectivement, vous avez parlé de ce combat sur Bloom-Violette. En fait, quand on pense que ça a été une immense réforme qui a été bloquée par tous les conservateurs et les réactionnaires d'Alger et de Paris, il s'agissait de donner le droit de vote à 17 ou 20 000 musulmans seulement, et d'entrouvrir la porte, et ça a été un débat national, et il a perdu. Ensuite, il y a le très grand texte qui est la prise de conscience aussi sociale,
c'est Misère de la Kabylie, 1938.
C'est un vrai engagement. C'est-à-dire qu'il crée avec des gens de gauche, il rentre comme journaliste dans un journal finalement assez étonnant qui s'appelle Alger Républicain, dans une terre quand même qui est très à droite, où les journaux sont financés abondamment par les colons. Il y a un petit journal qui fait de la résistance républicaine et qui a une position critique face au colonialisme, c'est Alger Républicain dont il est et dont les... et dont les témoins vont plus tard aller à l'Express, etc. Donc, dans Alger Républicain, il mène un combat contre le racisme des colons, et il répond à une enquête de publicité faite par Alger Républicain qui vantait les délices de la Kabylie. Vous savez, ces articles payés par le gouvernement général.
Et lui montre l'extrême pauvreté.
Et là, lui montre l'extrême pauvreté. Donc, c'est à la fois un engagement social, c'est un engagement sur une complexité algérienne, parce que les Kabyles ne sont pas des Arabes. Les Kabyles, c'est pour Camus et historiquement l'un des peuples les plus anciens avec les Juifs.
Ce sera donc l'une des premières victimes en cas d'indépendance.
Et donc il a toujours dit, il y a trois Algéries. Il y a une Algérie arabe, il y a une Algérie européenne, une Algérie kabyle.
Et il rêve que les trois soient dans une forme de fédération, de confédération.
Voilà. Et ça va être...
Et c'est Pierre Mendès-France qui pourrait sauver
utopie,
tout ça.
Son utopie, c'est ça. Alors ça va durer 20 ans, mais très vite, enfin, il se heurte aux grandes difficultés. En 1946, on va pas refaire tout... Il comprend au moment de Sétif, de la répression de Sétif. Il n'est pas à Sétif sur le moment, il est dans un voyage entre la France et l'Algérie. Mais que la France va réprimer les émeutes de Sétif de manière terrible et que c'est le vrai début de la guerre d'Algérie dans un entretien à la radio en 1946. On a oublié, que je recite dans mon film, il énonce, il esquisse un projet, mais peut-être est-il déjà en 46 trop tard. Il voit venir l'indépendance et la confrontation, dit-il, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Il dit, la France a un génie particulier, aujourd'hui nous sommes en 1946, nous avons 20 ans de retard. Il faut qu'on évite la confrontation et la guerre entre les populations arabes. Il faut qu'on fasse un saut dialectique pour inventer une confédération. Et il trace là, en 46, rien de moins que ce que deviendra l'Afrique du Sud. C'est son rêve. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas à choisir entre une majorité musulmane et une minorité européenne qui devra partir. Que la complexité de ce pays fasse que tout ce peuple en fusion, car il pensait qu'il y avait une culture spécifique à l'Algérie, faite de musulmans, faite de kabyles, faite de juifs, faite de chrétiens, faite de gens qui venaient de la Creuse.
D'où le fait qu'il ne prend pas le parti pour l'indépendance et qu'il a une incapacité à choisir son camp, et finalement il se tait.
On lui a beaucoup reproché de pas avoir pris le parti de l'indépendance, et au fond c'est un silence extrêmement douloureux. Il fait une tentative en fin 1955, il espère, comme vous l'avez dit, le retour de Pierre Mendès-France et que ça accouchera. À l'époque c'est l'utopie, c'est-à-dire on pense que Mendès-France qui a réglé la Tunisie, qui a réglé l'Indochine, va régler le problème algérien.
Et puis finalement ce sera Guy Mollet, donc évidemment le molettisme.
Il nomme un mec absolument révolutionnaire, un grand intellectuel, il nomme Jacques Soustelle, qui est le grand spécialiste des civilisation aztèque. Et ce Jacques Soustelle, il invente des choses incroyables pour inventer, accoucher de cette intégration. Il nomme quand même Germaine Tillon, qui est la patronne des centres sociaux. Il donne à Germaine Tillon une responsabilité sociale et éducative. Et tous ces gens-là marchent dans le, avec certains nationalistes, avec Ferhat Abbas, hein, qui est dans les parages, donnent l'espérance qu'il va se passer quelque chose. Mais peut-être est-il trop tard. Et Camus lance une tentative qui va rater encore une fois. C'est la tentative de la trêve civile. Il dit aux militaires, vous arrêtez les tortures. Il dit au FLN, vous arrêtez, vous faites la guerre si vous voulez, mais de manière militaire, vous arrêtez la terreur. Hein. Là, on retrouve les justes. Et on peut, il faut s'asseoir pour parler politique. Et cette, ce qu'on appelle cette tentative de la trêve civile, qui va être une nuit de colloque, va se terminer dans la haine, dans les cris et dans l'incompréhension. Camus, après cet échec, quitte l'Express. Rompt avec Jean-Jacques Servan-Schreiber et la critique. Et se tait. Il va rentrer dans un silence extrêmement douloureux car il n'est plus crédible. Mais il sait ce qui se passe. Il sait que la terreur, d'une part, les militaires, d'autre part, Massu, vont amener à des solutions impossibles. Et il sait que, aux commandes du FLN, c'est une aile militaire. C'est une aile islamo-marxiste. Et que ce sont pas ses amis, que ses amis démocrates ou les plus éclairés, soit ont été récupérés par le FLN, soit éliminés par le FLN. Donc il voit venir non pas l'indépendance dont il aurait rêvé, mais une indépendance qu'il ne verra pas, mais qui sera bâclée, en fait, tout le monde le dit.
Et,
sinon,
et qui mènera à une dictature militaire corrompue, gérontocrate, voilà. À savoir le FLN d'aujourd'hui.
Et je pense qu'on lui a fait un mauvais procès sur ces questions-là. Je pense qu'il était très en avance, mais il tenait les deux bouts de l'exigence, c'est-à-dire l'égalité avec les musulmans et les arabes, la citoyenneté, etc. Et en même temps, pourquoi sacrifier ce peuple de 90% de prolétaires qui étaient des petits blancs, qui n'avaient rien de colon.
Pour finir sur cette question, évidemment, qui pourrait être traité de manière beaucoup plus longue. Il meurt en 1960. On est loin de ce qui va se passer après, qu'évidemment il n'a pas.
On est prêt, en fait.
On est prêt, mais.
C'est-à-dire qu'une semaine après sa mort, c'est ce qu'on appelle la semaine des barricades. On l'a oublié aujourd'hui. Les pieds noirs se révoltent dans un cri de déchirement. Et ça va être la naissance du putsch. Ça va être la naissance de l'OAS. Il meurt. Il y a un chassé-croisé de l'histoire qui est assez étonnant. Camus meurt et les pieds noirs se déchirent et la guerre civile la plus terrible va commencer.
L'année suivante, Sartre préface à Frantz Fanon les damnés de la Terre, qu'on lui reprochera beaucoup, Camus est mort à ce moment-là.
Il recommande de tuer les Européens, Jean-Paul Sartre, le Jean-Paul
Absolument,
Sartre que Camus n'aime pas.
Préface
il dit,
aura...
dans ce très beau livre, très important, un texte indigne, il recommande de tuer les Européens, car quand on tue un Européen, en l'occurrence un pied noir, on fait de bonnes actions, on le libère et on supprime un oppresseur. Il faut quand
préface
même se rendre compte avec cette phrase de Sartre du climat des années 60 et des années 50. Il faut savoir qui étaient les ennemis d'Albert Camus.
Pour terminer sur ça, vous êtes l'auteur, beaucoup plus récemment, en 2003, d'un livre critique, et d'ailleurs critiqué, comme tous les livres sur ces sujets suscitent toujours beaucoup de polémiques, Un mensonge français, retour sur la guerre d'Algérie. C'est publié chez Robert Laffont donc en 2003. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme possible, une lecture camusienne de la guerre d'Algérie aujourd'hui?
Oui, alors il y a une chronologie qui, hélas, lui a échappé. La lecture camusienne, elle aurait été conforme à de l'action, c'est-à-dire si au moment du Front Populaire, on avait ouvert la porte à une confédération. Je pense qu'au moment où Camus agit, même 1955, c'est trop tard. Alors une lecture camusienne, oui, c'est-à-dire ouvrir tout, toutes les archives, dire tout. Dire les massacres abominables commis pendant la bataille d'Alger par l'armée française ou la torture, mais dire aussi les options terroristes du FLN, dire la guerre interne entre le mouvement national algérien, entre le FLN et le MNA, dire comment les politiques les plus politiques ont été éliminés par les militaires dès le début de la révolution algérienne et que ça donnera cette connotation militariste à la révolution algérienne qui reste jusqu'à présent. Oui, dire toutes les vérités, dire, en fait, éviter une histoire hémiplégique. Considérer que les Algériens jetés dans la Seine le 17 octobre 61 par la police de Maurice Papon sont aussi importants que les massacrés de la rue d'Isly ou les disparus pieds noirs d'Oran le 5 juillet. Qu'il n'y ait plus de mémoire hémiplégique, c'est ça la lecture. Relever le défi mémorial de Macron, c'est ça qu'il a lancé, il a dit Macron, ben c'est ça, c'est avoir une lecture, c'est la même lecture que pouvait avoir Mouloud Feraoun qui a été assassiné par l'OAS et qui était le grand ami d'Albert Camus.
France Culture, 18h57, en direct, émission spéciale Les Territoires d'Albert Camus jusqu'à 19h45. Nous sommes maintenant en Israël avec Denis Charbi, professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors j'aimerais commencer, puisqu'on parlait de l'Algérie, que vous avez travaillé sur la question algérienne, par cette phrase célèbre, bien sûr, sur la mer et la justice, que vous pouvez peut-être nous rappeler, ainsi que son contexte, ainsi que la vraie phrase, Denis Charbi.
Oui, alors en effet, cette phrase, elle a été prononcée au lendemain de l'attribution du prix Nobel
en Suède, hein.
1957 à Suède, voilà, la conférence de Stockholm. Alors il y a d'un côté sa conférence, c'est le discours qu'il a prononcé, et puis le lendemain, il prononce une sorte d'intervention auprès d'étudiants, voilà, il voulait quelque chose d'informel et...
Allô, je crois qu'on l'a perdu. Donc la phrase a lieu en 1957, discours de Suède. On a souvent résumé cette phrase entre devoir choisir entre sa mère et la justice. C'est plus complexe, comme l'a dit le traducteur présent, à savoir C.G. Brustorm. Camus aurait dit « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela, la justice, je préfère ma mère. » Le texte original a été publié dans la collection Folio chez Gallimard. C'est un annexe du discours de Suède, prix Nobel 1957 d'Albert Camus, dans ce texte. Vous êtes revenu, Denis Charbi ? Toujours pas. Alors on peut peut-être réagir.
Oui, en tout cas, je ne pense pas, pour avoir enquêté et interrogé, que ce soit une phrase préparée. C'est pas une phrase qu'il a écrite.
Oui, c'est un étudiant qui
c'est très important que le traducteur ait remis cela dans ce contexte. Oui, c'est ça le contexte. L'étudiant, c'est aussi le témoignage d'un autre journaliste du Figaro. L'étudiant était extrêmement agressif. Et ça, c'est devenu une sorte de procès politique de ce même Camus qui, à ce moment-là, quand même, s'active dans le silence, avec Germaine Tillon, à arracher des geôles des condamnés à mort FLN. Donc, il y a ce travail en profondeur, réel, dont il parle pas. Oui, il aide des Algériens. Oui, il a été le premier intellectuel, à cause de misère en Kabylie, à être jeté d'Algérie en 39. Sa vie change car il est blacklisté partout. Donc, il comprend mal ce procès. Et ce que raconte Catherine Camus, qui s'est passé, c'est que cet étudiant, des années plus tard, est venu sur la tombe de Camus à l'Ourmarin, et est venu s'excuser, disant qu'il comprenait, peut-être de l'eau et des années étaient passées, en tout cas. Donc, cette phrase, effectivement, elle a fait le buzz, on disait pas le buzz à l'époque.
Elle est d'ailleurs pas si scandaleuse que ce soit,
les
après
Sartriens,
tout.
Les Sartriens s'en sont saisis.
Oui.
Alors on s'est moqué au retour d'abord on était jaloux du prix Nobel. Bernard Franck, immense critique, se moque quand même de ses manières d'enfant pauvre. Hein? Il l'écrit dans les journaux sartriens. On se moque de ses manières de provinciaux.
Il n'est pas conforme.
Et surtout, on dit que c'est un fasciste car il a dit ça. C'est-à-dire l'expression fasciste, l'insulte était vite lancée devant cette phrase. Et effectivement, qui est assez vertigineuse et assez visionnaire.
La critique de fasciste va revenir très souvent, on le sait bien sûr, et d'abord après l'homme révolté, c'est à ce moment-là que d'abord la rupture avec Sartre, mais aussi, je cite par exemple le communiste Jean Canapa dans son pamphlet « L'existentialisme n'est pas un humanisme », traite Camus de fasciste et de valet de la bourgeoisie en le classant parmi les existentialistes, les menteurs, les ennemis du peuple, les ennemis de l'homme. On peut en trouver beaucoup d'autres, sans aller jusqu'à la critique de Simone de Beauvoir, qui existe dans Les Mandarins, ou celle bien sûr de Francis Janson, au moment de la critique sur l'homme révolté, qui est très traumatisante pour les temps modernes.
C'est frappant, mais ce qui est frappant, c'est normal qu'il y ait des débats intellectuels, et que ce débat sur la question de révolte ou révolution, c'est bien ça, se pose. Et c'était légitime, on pouvait discuter du marxisme ou pas du marxisme, etc. Mais, en fait, c'était sous-jacent dès la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'on sentait bien que, enfin, il y avait deux stars internationales de l'existentialisme, peut-être trois. Il y avait Sartre, il y avait Camus, qui n'étaient pas existentialistes véritablement, ça, et Beauvoir. Mais la question du marxisme était mise un peu sous le tapis. Et puis ça explose véritablement avec l'homme révolté. Mais ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que c'est pas un débat politique, c'est pas un débat idéologique. C'est quelque chose de très violent. C'est la mise
une excommunication.
Ah, même plus, c'est la liquidation. Liquidation intellectuelle, c'est on charge Sartre, poussé par Beauvoir, on charge Janson de l'exécution. Et pour tout le monde refuser, parce qu'il a mis 6 mois quand même à exécuter ça. Et ça a été une véritable exécution publique, puisque le mot fasciste, puisque ennemi de l'homme, enfin je veux dire quand...
Sans parler des critiques des surréalistes, Breton en tête.
Voilà.
Alors, qui avait été, il faut bien le dire,
Breton,
qui avait été accusé, attaqué, il faut bien le dire, assez sévèrement, notamment à travers Le Trianon et Rimbaud, qui n'est sans doute pas le meilleur texte au passage d'Albert Camus, parce qu'il rate Rimbaud complètement dans L'homme révolté, mais malgré tout, évidemment, les surréalistes réagissent. C'est
André Breton a été généralement mieux inspiré. Mais ce qui est très frappant, c'est à quel point il y a un effet de meute contre un homme seul, finalement. Il y a 3-4 personnes qui soutiennent.
Oui, René Char, Jules Leroy, il y a Louis Guillou, Anna Arendt. Ouais.
Voilà, c'est 4 personnes qui défendent
Camus. Les amis qui ne le lâchent pas.
Et sinon, c'est la meute. Le rapport de force à Paris, c'est qu'il a des réseaux, monsieur Jean-Paul Sartre. C'est qu'il a une compagnie qui est particulièrement vindicative. C'est
que Beauvoir,
à Paris, à l'époque, soit on est sartrien, soit on est communiste, soit on est ex-vichiste et on rase les murs ou on est à l'Académie française. Donc c'est très difficile d'être contre le conformisme, et l'accusation de fascisme est particulièrement dégueulasse, oui.
On a retrouvé Denis Charbier. Bonsoir, monsieur, en direct d'Israël. Alors, on évoquait cette phrase, justement, « Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways ».
Oui, c'est ça, « Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways, si cela la justice, je préfère ma mère ». Et l'interprétation que j'en donne, c'est que quand il met en opposition la justice et la mère, il met d'un côté la justice, qui est un concept abstrait, qui et d'une certaine manière dit la cause du FLN, la cause de l'Algérie, est une cause juste, mais il dit attention, il faut confronter qui on a en face. Et sa mère, c'est pas simplement sa mère biologique, c'est une femme analphabète, c'est une femme qui a été victime de l'histoire, mais comme elle est espagnole et mariée à un Français, elle est considérée comme du côté des colonialistes, et ça, pour lui, c'est pas possible. La justice, bien sûr, c'est un idéal, bien sûr, doit être poursuivie, doit être recherchée, mais il faut toujours la confronter à celle qui pourrait en être la victime, en l'occurrence, Madame Camus, qui s'est retrouvée exilée après 1962, parce qu'elle était considérée du côté des colonisateurs, ce qu'elle n'était pas, compte tenu du fait qu'elle avait été jusque-là une victime de l'histoire et qu'elle est restée jusqu'au bout.
Alors, Denis Charbier, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University en Israël et par téléphone avec nous en direct d'Israël. Vous avez publié en hébreu les chroniques algériennes, c'est-à-dire les fameuses actuelles 3 d'Albert Camus. Quelle a été la réception à la fois initiale et jusqu'à aujourd'hui de Camus en Israël, notamment sa position d'abord sur la question d'Israël, qui se limite, je crois, à un très petit nombre de textes finalement?
Oui, effectivement, il a deux textes. Il a une interview qu'il donne en 1956 dans le mensuel du judaïsme français qui s'appelle L'Arche, où il critique l'attitude de la gauche de son époque, voulant condamner l'impérialisme français et britannique, également critique l'État d'Israël, et donc il exprime un soutien. Mais il y en a un texte plus significatif encore, et là c'était une interview, c'est en 1947, c'est un journaliste français, Jacques qui fait un reportage dans un bateau clandestin en direction de la Palestine mandataire, encore détenue par les Britanniques. Le livre s'appelle « Laisse partir mon peuple ». Et il écrit une préface qui s'appelle « Persécuté, persécuteur », et que Camus a repris dans le premier volume d'Actuel 2. C'est dire l'importance qu'il accordait à ce texte-là, dans lequel, alors c'est un texte très ironique, dans lequel il dit le monde entier finalement ne veut pas entendre parler des juifs, ils sont morts, qu'ils le restent, alors que là, ils essayent d'avoir un petit bout de terre en Palestine. Donc là, il y a une expression très claire, et ça a été publié en 1947 dans la collection Esprit, et on voit préface d'Albert Camus et un drapeau d'Israël flotter au vent. Ce sont deux textes seulement, mais c'est pas la raison principale pour laquelle Camus a été apprécié. D'abord, il faut savoir qu'il est le premier des auteurs français à avoir été traduit quasi intégralement. Je regardais la liste des essais. Tous les essais ont été traduits. Actuel 1 et Actuel 2, c'est une anthologie, mais c'est quand même le texte, mais tous les essais ont été traduits. Et quant au roman également, y compris Noce, y compris L'Exil et le Royaume, et bien sûr La Chute, la Peste, L'Étranger. Son théâtre l'est un peu moins. Pour autant, on permettrait cette ironie, mais je pense qu'au temps d'aujourd'hui, il n'aurait pas été mauvais de monter sur scène Caligula. Quand on voit quoi les ministères qu'on a, à qui on les a attribués et quels sont-ils. Mais voilà, son théâtre a été, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adaptations. Alors, ça a été, d'une certaine manière, celui dont les Israéliens se sentent le plus proches, à cause justement de ce déchirement entre, je dirais, un enracinement européen et un enracinement méditerranéen. Et c'est vrai que, alors là, en Israël, on est extrêmement sensible à cette part-là qui est très peu connue, ou dont on ne parle pas énormément, qui est du Camus en Algérie, son apothéose d'une vision méditerranéenne de la politique, quelque chose qui serait différent de la politique telle qu'on le veut, telle de la civilisation telle qu'on la pratique dans le Nord, cette civilisation méditerranéenne, eh bien en Israël, elle a été à l'origine de toute une pléiade de penseurs, de philosophes, d'intellectuels qui mettent en avant cette dimension de la Méditerranée, de quelque chose qui serait commun à tous ceux qui se trouvent autour de cette Méditerranée, de l'Espagne à Israël, en passant par l'Algérie, le Maroc et bien sûr la France. Alors on a traduit dans le désordre ces œuvres. La Peste est certainement celui qui a été le plus lu. Il y a une petite anecdote savoureuse pour l'étranger. On a traduit à l'époque, comme on le faisait d'ailleurs en sens contraire, à partir de l'anglais. Et c'était un manuscrit qui n'était pas accrédité par Camus. Et donc ça a pris pas mal de temps avant qu'on ait la vraie traduction du français de l'étranger tel quel. Et je dirais que ce qu'il y a de plus intéressant par rapport à l'hébreu, c'est que dans les années 50, on traduisait de manière très emphatique et ça ne correspondait pas du tout, et d'ailleurs c'était des poètes qui en étaient les traducteurs, ça ne correspondait pas du tout à l'écriture blanche de Camus. Et dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on reprend toutes les traductions à zéro pour qu'elles soient beaucoup plus accessibles aux lecteurs hébraïques. Mais je dirais, pour conclure, que le Camus auquel on est finalement ici le plus attaché, c'est celui de la pensée de midi. Voilà, et je pense notamment aux intellectuels, voilà, qui sont à la fois se déclarent sionistes, mais qui pensent également qu'il y a une place pour le peuple palestinien. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé, en tout cas, dans ce discours sur l'avenir de la tragédie prononcé à Athènes, la clé de la pensée politique de Camus, non seulement sur la guerre d'Algérie, mais peut-être également sur le Moyen-Orient, même s'il n'en parle pas, quand il fait cette distinction entre le drame et la tragédie. Le drame, c'est quand l'un a raison et quand Antigone a raison et que Créon a tort. La tragédie, c'est Antigone a raison et Créon n'a pas tort. Et il a cette phrase dans cette même conférence où il dit que la tragédie commence quand quand les parties sont convaincues qu'elles détiennent un droit et à elles seules. Et cette conviction que c'est ou toute la Palestine ou tout Israël et qu'il n'y a pas une place pour une vision nuancée et complexe, voilà ce qui nourrit, je dirais, la pensée de nombreux intellectuels israéliens qui veulent la paix pour les deux peuples dans une égalité. Alors pas dans le sens tel que Georges Marc Benhamou en parlait tout à l'heure à propos d'une Algérie qui serait unifié,
une confédération, oui.
Voilà, c'est plutôt sur deux États pour deux peuples, qui inventerait peut-être par la suite, une fois que cette expérience-là fonctionnerait, eh bien inventerait des processus, des procédés pour effectivement peut-être ouvrir un petit peu les frontières. Mais on ne fait pas parler à mort, mais je suis convaincu que le Camus 2020 n'aurait pris parti ni pour le grand Israël, ni pour une Palestine arabe et musulmane, mais pour quelque chose justement, cette pluralité, cette diversité qui fait que Israël et la Palestine sont des laboratoires dans lesquels vous trouvez des gens de confessions différentes, de langues différentes, et trouver un cadre politique qui permette aux uns et aux autres de se sentir libre, mais en convergence avec le
merci,
peuple voisin.
Merci infiniment. Denis Charby, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University en Israël. Le livre le texte dont vous faisiez plusieurs fois, auquel vous faisiez plusieurs fois référence, La pensée de midi, c'est bien sûr la conclusion, les derniers chapitres de L'homme révolté d'Albert Camus. Et puis tout un tas d'autres ouvrages que vous avez cités, je les citerai tout à l'heure en fin d'émission, en bibliographie.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h11 sur France Culture en direct, Les territoires d'Albert Camus jusqu'à 19h45 ce soir sur France Culture. On est avec Georges-Marc Benhamou qui a notamment réalisé un film pour France 3, Les vies d'Albert Camus. Peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit, Georges-Marc Benhamou.
Je voulais rebondir sur ce que disait le professeur Charby. J'ai été frappé également, et je crois qu'on le sous-estime, et dès les textes des années 30 de Camus, sur l'idée qu'il existe, qu'il est en train de se fabriquer ce que certains ont appelé une école d'Alger, ce que d'autres ont appelé une pensée du Sud, qui passait par la littérature, qui passait par la peinture, et qui n'était pas uniquement pieds noirs ni blanches. Il y a autour de la bande de Camus, de Max-Paul Fouché, des écrivains qui vont venir s'agréger. Et il élabore cette idée qu'il y a là un laboratoire où s'invente un peuple et une pensée du Sud, où vont venir se greffer des gens comme Mouloud Feraoun, l'un des plus grands écrivains algériens, où vont venir essaimer d'autres. Donc il a l'idée que va accoucher une utopie du Sud qui n'a rien à voir avec la pensée du Nord et disons la philosophie allemande, pour aller vite. Ouais.
Et il y a là. Ça, c'est l'homme révolté, en partie, la conclusion.
C'est l'homme révolté, mais c'est aussi l'esthétique de Noce, et il y a quelque chose d'à la fois de païen, de méditerranéen, de sensoriel, de politique, tout ça est mêlé, dans le sensoriel comme dans le fraternel. Il y a là un laboratoire, il y a là un peuple qui est en train de se fabriquer, de se métisser, et dont, selon lui, la fabrication va s'interrompre avec l'indépendance. Alors, on peut tout à fait avoir un point de vue critique, mais il y a là la naissance d'une utopie fraternelle, véritablement fraternelle, dès ses premières prises de parole dans les années 30.
L'homme révolté, c'est aussi l'éloge, comment dire, à la fois de la révolte et de la mesure, les deux à la fois. C'était bien dit d'ailleurs par Alain Finkielkraut et Raphaël Antovin dans un dialogue hier matin dans Réplique sur cette chaîne, que je vous invite d'ailleurs à réécouter. Et il essaye de tenir les deux bouts, si on peut dire, en même temps.
Mais d'abord, oui, je crois qu'il a, repoussé la fatalité, la pente d'être conformiste et absolument marxiste dans, c'est-à-dire il a refusé les deux tentations mortifères du XXe siècle, c'est-à-dire le fascisme et le communisme. Ça, au moins, c'est clair.
Les deux totalitarismes à la Arendt, là encore.
Et là, c'est ça qui le lie à Arendt, c'est ça qui le lie à Arthur Koestler. Et en même temps, si je puis dire, il n'est pas un romantique. Et il a le sens d'une mesure grecque, hein, je veux dire, cette de la pesée philosophique, et ce qui évite toutes les barbaries du monde, ce qui va le rendre moins sexy dans les années 50-60 pour un public qui est avide d'extrémisme, de révolution.
Mais qui aujourd'hui, etc., explique le retour de Camus.
Et qui explique aujourd'hui. C'est quand même invraisemblable. Enfin, moi, j'arrive à Paris, jeune homme de ma province, comme vous, Frédéric. Et la première grande scène, c'est l'enterrement de Sartre, octobre 80. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue. C'est une époque mais immense où Sartre était un géant. Et pendant des années, avant sa mort et après sa mort, on ne pouvait pas avoir un point de vue critique. Et Camus était banni. Je me souviens d'échanges avec le pauvre Jean-Jacques Brochier, aujourd'hui décédé, ancien patron du magazine littéraire, celui qui avait lancé la formule.
Écrivain pour...
philosophe pour classe terminale. C'était un dernier échange. C'était ça, la pensée dominante, jusqu'à il y a encore 10 ans.
Alors que l'homme révolté, c'est, pour citer Roger Grenier, c'est comment l'homme, au nom de la révolte, commode du crime, comment la révolte a eu pour aboutissement les états policiers concentrationnaires de notre siècle.
Oui, je pense qu'il y a un critère, en tout cas pour quelqu'un qui est un enfant de ce XXe siècle, comme vous, comme moi, comme nos auditeurs, c'est qu'il a évité tous les pièges du XXe siècle. Je veux dire, quand il est d'une fidélité aux républicains espagnols, et on parle d'international, toute sa vie jusqu'au dernier jour, il soutient les républicains espagnols contre Franco. Il est probablement l'homme qui a le plus lutté pratiquement pour aider les démocrates hongrois pendant l'insurrection de 56, ce qui lui a valu des surveillances des services spéciaux bulgares, toutes sortes de légendes de harcèlement des soviétiques. Il est d'une fidélité exemplaire à tous ces combats. Et on a oublié, puisqu'on dit la mesure, enfin, il est très proche des mouvements libertaires et des véritables anarchistes, en fait, des anarchistes constitués. C'est pas du folklore aujourd'hui encore, sa filiation du haut mouvement anarchique tel qu'il était constitué et assez puissant dans le monde à cette époque-là. Vous me demandez, on parlait de ces idées politiques. Il y a une phrase, je ne saurais pas la sourcer, où il dit: je suis un libertaire de cœur et un social-démocrate de raison. Et je pense que ça résume assez bien ce Camus qui a évité tous les pièges mortifères du XXe siècle.
On retrouve un peu ces thématiques dans la préface très belle à l'envers et l'endroit sur lequel il revient d'ailleurs sur son histoire et sur lequel il fait l'éloge ici ou là d'ailleurs d'une forme de morale tout à fait différente.
Qu'on trouve dans la peste d'ailleurs. Cette lecture chrétienne païenne en fait, ce christianisme sans Dieu dont on voit des traces dans certains personnages de la peste. Oui, au fond c'est ça. Il y a une recherche, il y a un homme, il n'y a pas un système, il n'y a pas des blocs idéologiques. Au fond, c'est peut-être ça qui plaît chez Camus, qui fait ce retour aussi important et sensible aujourd'hui.
Nous sommes par téléphone avec Maria Santos Sáenz maintenant. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Maria Santos Sáenz, vous êtes professeure de journalisme à l'université de Bordeaux. Vous avez notamment écrit un ouvrage intitulé Camus, journaliste, sur la réception d'Albert Camus. Notamment, on aimerait vous entendre sur l'aspect Amérique latine, puisque c'est aussi votre spécialité d'évoquer un Camus latin, c'est-à-dire finalement espagnol et latino-américain.
Oui, c'est vrai que Camus a toujours reconnu sa dette envers l'Espagne, d'abord par son origine espagnole, des côtés de sa mère. Il a reconnu cette proximité existentielle aussi envers l'Espagne. C'est vrai que il a reconnu, il a écrit que l'Espagne était sa seconde patrie. Comme on a évoqué tout à l'heure, il a eu une fidélité aussi idéologique envers la cause républicaine espagnole. Et notamment aussi, il y avait un sentiment aussi tragique de la vie, un peu comme il disait Miguel de Unamuno, qui l'amenait à cet esprit espagnol qui a toujours fait communier avec son esprit un peu de Don Quichotte.
Ouais, ce côté Don Quichotte un peu à l'époque, celui au fond qui est toujours à contre-courant, c'est ça l'image ?
Et c'est vrai que il dénonce sans relâche les injustices lorsqu'il se trouve confronté à des causes qui les révoltent. Et notons, par exemple, sa dénonciation de la barbarie avec le lancement de la bombe atomique sur Hiroshima. Camus a été l'unique journaliste occidental à dénoncer cette atrocité nucléaire. Dans un éditorial publié le 8 août 1945 à Combat, quand la majorité de ses confrères saluaient la prueuse technique. C'est vrai que ces prises de position, ils ont été toujours à contre-courant. Et on les voit notamment dans ses écrits journalistiques, où il se confronte avec l'actualité. Il choisit toujours de donner la parole aux opprimés, aux humiliés, aux invisibles. Il donne la voix aux sans-voix. Enfin, Camus se rend où personne l'attend. Par exemple, avec ses reportages, la série des reportages de la misère de la Kabylie. Et Camus a été un véritable éveilleur des consciences et notamment une autorité morale. Et il a exercé un magistère, comme un des meilleurs éditorialistes et de France et de l'Europe, évidemment.
Alors, sur ce sujet, merci beaucoup. J'aimerais quand même vous interroger encore une fois sur l'Espagne et notamment sa passion pour les auteurs espagnols. Je pense notamment dans le théâtre, au début de sa carrière en Algérie, il joue un certain nombre d'auteurs espagnols.
Et Camus a toujours revendiqué son goût pour les théâtres espagnols. Et quand il a fait partie de la troupe Théâtre du Travail, il s'est intéressé aux auteurs du siècle d'or espagnol. Il va jouer des pièces de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, La Celestina, de Fernando de Rojas.
La Celestina,
et c'est vrai que maintenant que j'y pense, dans une interview, je crois que c'était une interview en 1958, il avait déclaré « Je suis pour la tragédie et non pour les mélodrames, pour Shakespeare et les théâtres espagnols ». Et c'est vrai que cet intérêt pour les théâtres espagnols, il a mené aussi auparavant même à coécrire une pièce de théâtre, « Révolte en Asturie », qui était consacré à l'insurrection ouvrière des Asturies en octobre 1934, une pièce qui était interdite par le gouvernement d'Alger.
Une question autour de la guerre d'Espagne. Bien sûr, le rapport de Camus à l'Espagne passe par la guerre d'Espagne. C'est aussi d'ailleurs ce qui va lui coûter d'être longtemps interdit en Espagne du fait du franquisme. Et qu'il va revenir en Espagne, étrangement, via les traductions latino-américaines, notamment.
Et c'est vrai que bon, il a toujours déclaré que il était un véritable fidèle défenseur de la République espagnole, de la cause des républicains espagnols, hein, il déclarait que c'était vraiment la fierté de sa vie. Il avait même dit « Je dois l'Espagne, j'envers votre patrie, sa littérature et son peuple, sa tradition d'être qui sait n'entendre pas ». Et c'est vrai que Camus, malheureusement, il a été interdit pendant les franquismes. Et c'est de manière clandestine, notamment l'étranger, il est arrivé en 1949, mais il était arrivé et par les biais de l'Argentine. Donc les premiers ouvrages de Camus, ils ont commencé à circuler en Espagne, d'abord en clandestinité, mais après d'une manière un peu cachée. Bon, après il y a eu une ouverture en Espagne à partir de 1966 avec la loi de la presse de Fraga. Et on a eu toujours les éditions qui l'aidaient, notamment de l'Argentine et aussi une maison d'édition du Mexique. Il a fallu attendre à 2010 pour avoir vraiment une version des œuvres complètes des Camus en castillan d'Espagne. Vous voyez, donc ça montre voilà cette petit retard qu'il y a eu notamment par rapport au franquisme qui l'avait interdit. Mais il faut aussi rappeler parmi les intellectuels de l'exil espagnol, il est resté une référence et il était vraiment très lu et il y avait un lien très 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 fort.
Que sait-on pour terminer du Camus en Amérique latine? Vous l'avez évoqué pour partie, mais il s'est rendu en Amérique latine.
Et sur l'égide des services culturels français, Camus il a réalisé l'été 1949 une tournée des conférences en Amérique latine. Il va rester presque 2 mois, du 30 juin au 31 août 1949. D'abord, il va se rendre au Brésil, il va rester un peu plus longtemps, et après sa tournée, il va continuer, il va se rendre à Buenos Aires, où justement il va trouver l'interdiction par le gouvernement péroniste de sa pièce de théâtre Les Malentendus pour athéisme. Après, il va continuer ses tournées des conférences à Montevideo et également à Santiago de Chili.
Ben merci infiniment pour Maria Santos Saint pour cette présentation de ce Camus à la fois latino et espagnol. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment de Camus journaliste. Georges-Marc Benamou, peut-être sur la guerre d'Espagne, on ne l'a pas évoqué avec vous. Comment est-ce que vous comprenez son engagement, là pour le coup plus facile à décrypter et plus simple finalement, le camp est choisi pour le coup.
Oui, et d'abord la proximité familiale, ça a été dit. Et puis, il faut se souvenir que l'Espagne est tout proche d'Alger, où Camus commence ses premiers pas au théâtre, est proche du Parti communiste, et finalement, l'admiration de Camus, elle va à un écrivain qui s'appelle, engagé dans la guerre d'Espagne, qui s'appelle André Malraux. Et il va adapter une pièce de Malraux, et la connexion passe aussi par cette connaissance d'André Malraux, le fait qu'il joue cette pièce, le fait que révolte dans les Asturies, qui n'est pas directement liée à la guerre d'Espagne, mais à une révolte bien particulière qui a eu lieu un peu avant la guerre d'Espagne, va tenter de se jouer et est interdit par le très réactionnaire gouvernement général. Donc, les réfugiés espagnols arrivent, la famille espagnole est là, et il va avec sa première épouse, je pense, sur ses origines, je pense qu'il va faire un voyage en Espagne à cette époque-là, juste avant que Franco prenne le pouvoir, à la recherche de ses origines, avec, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, sa première épouse dont je parle dans ce film, dont les biographes parlent, qui elle s'appelle Simonier, et qui a été une période très douloureuse, très malheureuse de la vie de Camus, où on voit un Camus déchiré, fracassé, car il va découvrir assez vite que cette femme, la plus belle de son côté macho, la plus belle d'Alger, avec ses allures de vamp, était morphinomane, et qu'elle le trompait avec les médecins qui lui faisaient les ordonnances.
C'est un passage terrible dans votre film.
Passage terrible, et un moment sur un homme très jeune qui va découvrir cette face noire de l'amour.
Le journaliste et écrivain Manuel da Costa Pinto est maintenant avec nous par téléphone depuis São Paulo, au Brésil. Il est l'un des spécialistes brésiliens de Camus, a publié ouvrages et articles sur le voyage de Camus, notamment au Brésil. Et il a également dirigé l'exposition Camus à la Casa das Rosas de São Paulo. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous en direct par téléphone depuis le Brésil. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation à participer de cette émission.
Alors je commence par une question personnelle. Comment est-ce que vous avez connu Albert Camus ?
Alors, c'est curieux. La première fois que j'ai entendu parler de Camus, ça a été dans le livre d'un prêtre. Et c'est curieux parce que je suis complètement athée depuis l'adolescence. Et j'ai lu ce livre à cause de mon intérêt par la politique. Parce que son auteur, c'était Don Pedro Casaldáliga, un prêtre espagnol qui vit au Brésil, ça fait beaucoup d'années, et appartient à la théologie de la libération. Il est vivant encore, il aura aujourd'hui 90 ans, et dans ce livre, dont le titre, je ne me souviens pas, malheureusement, il écrit qu'il n'est pas d'accord avec Camus en ce qui concerne l'espoir. Il faisait référence à une phrase de Camus dans L'homme révolté, où Camus dit que l'espoir, je cite, l'espoir, au contraire de ce qu'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, ce n'est pas se résigner. Évidemment, Don Pedro Casaldáliga, en tant que chrétien, ne pouvait pas être d'accord avec Camus. Moi, au contraire, j'ai eu la curiosité de connaître l'auteur de cette phrase, contre l'espoir et à faveur de la vie. Et c'est ainsi que j'ai commencé à lire Camus. Je suis un lecteur passionné de son œuvre. J'ai fait ma thèse sur Camus. Je traduis des textes de critiques littéraires.
Vous avez également publié Albert Camus, Un elogio do ensayo. En gros, Albert Camus, un éloge de l'essai sur les rapports camusiens avec la tradition du moralisme français. Ou encore publié et traduit une anthologie de textes de critiques littéraires de Camus, livre intitulé L'intelligence et l'échafaud. Tout ça par vous, Manuel da Costa Pinto. Alors, une question sur Albert Camus qui se rend au Brésil en 1949, il y reste je crois 2 mois, c'est pendant l'été, juillet-août, l'été pour nous, c'est l'hiver chez vous. Il a sillonné le pays, notamment Rio de Janeiro, je crois qu'il va à São Paulo, Recife, Olinda, Salvador, Porto Alegre, Iguape. Quel est le but de son voyage et quelles sont les personnes qu'il rencontre?
Alors, Camus est venu au Brésil dans le cadre d'une des missions culturelles créées par le gouvernement français. À l'époque, il y avait beaucoup des missions françaises. Il faut se souvenir que la Université de São Paulo, la plus importante au Brésil, a été créée par une mission française. 3 ans plus tôt de l'arrivée de Camus au Brésil, il a été aux États-Unis, invité par Claude Lévi-Strauss, qui était alors l'attaché culturel du ministère des Affaires étrangères à New York. Et en 1949, il est venu au Brésil, comme vous l'avez dit, pour sillonner le pays du nord-est au sud. Camus a passé la plupart du temps au Rio de Janeiro, alors la capitale du Brésil. Maintenant, la capitale, c'est Brasilia, comme vous le savez sans doute. Mais il a connu plusieurs endroits, plusieurs villes, plusieurs écrivains, artistes, tels que le compositeur Dorival Caymmi, le dramaturge Abdias do Nascimento, qui voulait faire la mise en scène de Caligula avec des acteurs noirs. Il a connu aussi des poètes, beaucoup de poètes, comme Manuel Bandeira, Murilo Mendes.
Oswald de Andrade.
Il a eu des rapports très étroits avec Oswald. Oswald de Andrade l'a montré sa conception de l'anthropophagie. L'anthropophagie, c'est un mouvement, c'est le titre d'un manifeste moderniste d'avant-garde au Brésil dans les années 1920. Et l'anthropophagie, c'est une façon très particulière de comprendre la culture brésilienne, la confluence entre culture européenne, africaine, indigène, sur les bords et au bout du monde, qui est le Brésil. Évidemment.
Mouvement très, très influent et qui a donné lieu à tout un modernisme au Brésil. Est-ce que c'est le Sud qu'il aimait au Brésil, qui faisait écho à ce dont on a parlé, à savoir sa pensée de Midi, par exemple?
Oui, sans doute. J'ose dire que le Brésil est le seul pays où Camus a rencontré un double de l'Algérie. Le même équilibre entre nature et civilisation, une idée des limites, une idée des mesures. C'est un pays qui ne fait pas de l'histoire une finalité en soi-même, un pays qui tourne le dos à l'histoire, aux passions idéologiques, et aux abstractions, disons. Évidemment, on parle du Brésil des années 40-50, pas du Brésil de Bolsonaro.
Il disait d'ailleurs, Doron, que c'était, en comparant à San Paolo serait une sorte de haut rang, mais démesuré, sans limite, comme ça. Et puis, puisque vous citiez pas Bolsonaro, on peut dire qu'on est très camusien aujourd'hui au Brésil, non? Dans le Brésil de Bolsonaro. Vous croyez que Bolsonaro est camusien?
Oui, très camusien, il aime le dialogue, l'humanisme, le respect des lois, c'est...
Quel est votre livre, pour terminer, préféré de Camus, Manuel da Costa Pinto?
Mon livre préféré, c'est La Chute. Bien que L'étranger soit le grand classique de Camus, le premier roman classique d'après-guerre, comme le dit Roland Barthes. Mon livre préféré, c'est La Chute. C'est un livre peu camusien. C'est peu camusien, un livre sombre, critique par rapport aux intellectuels de son temps, y compris Camus lui-même. Mais c'est un livre qui fait la critique des abstractions, des idéalisations, des dogmatismes, et qui sont aussi les nôtres. Je crois que c'est un livre, c'est le livre le plus complexe de Camus du point de vue de l'écriture. C'est un dialogue avec comme vous le savez sans doute, c'est un dialogue avec un interlocuteur invisible, un interlocuteur absent. Et la chute, c'est une sorte de trompe-l'œil où le narrateur s'adresse à quelqu'un qui est un miroir, et ce miroir, finalement, c'est le lecteur de la chute.
Merci. Chute 1956, Manuel da Costa Pinto en direct par téléphone depuis São Paulo au Brésil. Et puis on termine cette émission en revenant en France, si on peut dire, mais en même temps en évoquant un Camus et les territoires de Camus qui existent partout, à savoir notamment le Camus présent à travers le numérique. Et pour ça, nous sommes avec Marilyn Maesso, professeure de philosophie, agrégée de philosophie, notamment spécialiste de Camus. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Alors, vous avez monté une grande exposition sur Camus en partenariat avec l'Institut français au carrefour entre numérique et soft power mondial, justement. C'est un Camus, c'est des territoires de Camus illimités puisque digitaux. De quoi s'agissait-il?
Alors, ça s'est fait en 2013, c'était à l'occasion du centenaire de la naissance d'Albert Camus, et c'est une exposition réalisée effectivement en partenariat avec l'Institut français, et l'exposition était numérique, interactive et multilingue, c'est-à-dire qu'elle consistait, pour que les gens puissent se la représenter, en une fresque chronologique qui faisait presque 5 mètres de long, si mes souvenirs sont bons, qui était jalonnée de QR codes. Les QR codes, vous savez, c'est ces petits symboles qu'il faut scanner à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, de manière à faire défiler sur l'écran un contenu qui est automatiquement téléchargé depuis Internet. Donc c'est comme un lien Internet, en fait, qui permet d'obtenir du contenu numérique immédiatement à partir d'un support matériel.
Alors c'était une exposition itinérante, c'était une exposition itinérante et qui a été différemment reçue selon les pays, par exemple entre les États-Unis, le Brésil, l'Argentine. Comment ces pays ont pu utiliser, recevoir l'héritage camusien?
Alors déjà, sur le plan pratique, le gros avantage de cette exposition, effectivement, c'était qu'elle était sans limite, elle avait un pouvoir de diffusion énorme, puisqu'elle consistait en des affiches qu'on envoyait via des rouleaux, donc c'était très très facile à transporter, et c'est pour ça qu'elle a pu faire le tour du monde. Alors effectivement, la différence de réception, alors moi je vais vous parler de peut-être des pays que je connais le mieux, puisque c'est ceux où je suis allée présenter l'exposition. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des particularités entre la réception en Russie et la réception aux États-Unis. Je trouve ça intéressant parce que Camus, ayant beaucoup écrit dans le contexte de la guerre froide, ça me paraissait assez intéressant de voir cette différence. Quand je suis allée l'inaugurer à Princeton, c'était une réception, si vous voulez, qui était quand même extrêmement axée sur la littérature. Il y avait des ateliers de traduction, on parlait un petit peu des essais et du contexte historique, mais l'essentiel vraiment de Camus, c'était le Camus littéraire, le Camus de l'étranger, le Camus de la chute, le Camus des pièces de théâtre. En Russie, bien sûr, hein, la tradition littéraire est très importante puisque les Russes sont très intéressés par ça et aussi par la traduction. Mais le point sur lequel on m'a le plus interrogé, le point qui a le plus marqué visiblement les visiteurs, c'était la manière dont Camus revisitait et mettait à l'honneur une tradition de la pensée russe qui est pas forcément celle la plus connue, en tout cas à son époque. En l'occurrence, la tradition, vous savez, des terroristes des années du début du 20e siècle, la tradition des anarchistes, les traditions notamment qui est incarnée dans sa pièce Les Justes par le personnage de Kaliaïev. Et c'est vrai que cette manière en fait de se réapproprier un héritage qui avait peut-être été selon eux un peu trop recouvert par le passé URSS, hein, parce qu'on parle beaucoup bien sûr de l'URSS, Camus lui-même en a beaucoup parlé dans L'Homme révolté, c'est le fait qu'on mette aussi en évidence cette dimension-là de leur culture et de leur histoire est extrêmement bien reçu.
Vous avez publié, je termine avec ça, vous avez publié un livre qui s'appelle Les conspirateurs du silence en 2018 aux éditions de l'Observatoire, qui permet de traiter justement la question du dialogue chez Camus, dialogue central et que vous avez fait dialoguer avec des modes d'échange sur les réseaux sociaux notamment, qui permettaient de prolonger ce que vous appeliez justement la fabrique de l'inhumain. Merci infiniment Marilyn Maesso, professeure de philosophie, agrégée de philosophie, d'avoir été avec nous par téléphone pour terminer cette émission. Georges-Marc Benamou, peut-être une réaction.
Catherine Camus m'a passé un texte de Marilyn Maesso, je ne sais pas si elle est présente avec nous, qui s'appelle « Les nouveaux pestiférés ». Je ne sais pas si elle est toujours en ligne, qui est absolument remarquable. Je crois que c'est à l'issue de son dernier livre, qui est une lecture de ce que sont les pestiférés vus d'aujourd'hui, qui est absolument bouleversante et que j'ai lu pendant le confinement et qui est une réflexion extrêmement forte sur la peste.
Vous citiez le confinement. Au fond, c'est aussi ce qui s'est passé, une sorte de résurgence de Camus avec l'étranger, mais surtout la peste, à savoir qu'on arrive à relire ce livre constamment à travers de nouveaux contextes.
Oui, la relecture, enfin, c'est devenu une banalité. Elle est fulgurante d'intuition. Enfin, Camus n'a pas vécu la peste. Camus a entendu parler d'une épidémie de choléra qui avait eu lieu à Oran, etc., etc. Et quand on a relu la peste, comme beaucoup, on est saisi par la vérité politique, sociologique, la temporalité des rémissions, des chiffres. C'est que Camus, c'est pas seulement un immense intellectuel. Je crois qu'il le disait, il y a ce côté visionnaire parce qu'il est un immense artiste.
Et au fond, de lui en tant qu'artiste,
il se définit comme un artiste et pas comme un intellectuel. Oui. Et il y a ce côté, il a vu des choses que nous n'avons pas vues sur la peste, il a vu sur la politique, il a vu sur les malheurs et les bonheurs algériens.
Du coup, c'est une métaphore pour... Et qui fait qu'il est un best-seller en 2020.
Il a vu avant
au moment du confinement.
C'est ce qui fait de lui ce frère des hommes. Moi, j'aime bien cette idée et cet immense, immense artiste visionnaire.
Un cœur sans amertume, il dit aussi fréquemment. Une phrase magnifique.
Magnifique.
Et puis, je l'ai relisé aussi d'autres textes, mais par exemple, il a cette phrase très belle sur qui le rapproche de René Char, dont on parlait tout à l'heure. Il dit dans une lettre, justement, en 1952, « Les événements ici, à l'époque il est en Provence, je crois, les événements ici, ce sont les orages. » C'est une forme d'humilité aussi. Il y a des choses toutes simples, l'orage, c'est ce qui se passe. Et il dit ça à René Char qui vit, je crois, aller sur la Sorgue, un peu coupé du monde en tout cas.
Et cette sensualité, cette tranquillité, oui, cette pensée du midi, oui, vive le Sud.
J'avais une question à vous poser peut-être pour terminer cette émission. Il y a eu tout un débat sur son entrée au Panthéon qui a été en partie refusée par sa famille alors que le président Macron souhaitait...
Président Sarkozy.
Le président Sarkozy, mais ou encore le président Macron réfléchit aussi à une entrée au Panthéon. Au-delà de Sarkozy, Macron ou autre, de qui il demande, au fond, une entrée au Panthéon, c'est pas seulement pour Camus, c'est finalement pour nous. Et faire entrer Camus au Panthéon, c'est dire qu'il est important pour nous aujourd'hui. Est-ce que finalement il ne faudrait pas le faire ?
Écoutez, là, j'ai été associé directement parce que à l'époque, cette idée de l'entrée au Panthéon était une jolie idée, 2007-2008. En fait, plus qu'une jolie idée. Les conditions dans lesquelles ça s'est passé, les maladresses administratives, les péripéties qui se sont passées font qu'il y a eu beaucoup de polémiques.
Peut-être que plus sereinement un jour, parce que je citais Emmanuel Macron, il a dit qu'il allait faire rentrer quelqu'un à nouveau au Panthéon, sans doute cet automne.
Et en même temps, quand on va sur cette très belle tombe avec cette pierre travaillée par le temps de sa tombe, Catherine Camus n'a pas tort quand elle dit « il est bien ici ».
Mais en même temps, est-ce qu'elle a le droit ? Est-ce que finalement, il a accepté le Nobel alors que d'autres l'avaient refusé ? Est-ce que c'est pas...
Le corps de Germaine Tillon, que j'ai aimé infiniment et que j'ai un peu connu et qui était proche de Camus, n'est pas au Panthéon. Mais elle est au Panthéon, peut-être trouverons-nous une manière. Mais c'est aux héritiers et aux enfants de le dire aussi, je crois. Je crois qu'on ne peut pas leur refuser ce droit-là.
Pour préparer cette émission, j'ai utilisé la biographie intellectuelle de Camus, écrite par Roger Grenier, Albert Camus, Soleil et Ombre, qui date de 1987, qui est disponible en folio. J'ai lu avec intérêt la préface de Raphaël Antovin, préface à l'édition complète des œuvres de Camus dans la collection Quarto Gallimard, que je recommande vivement, un très bon livre en un seul volume, où est rassemblé tout ou presque tout Camus. La biographie d'Olivier Todd, que vous avez citée ce soir, Jean-Marc Benhamou, est remarquable, quoique un peu longue, pleine de verbiage parfois, mais c'est la meilleure à ce stade et la plus complète, également en folio. Enfin, j'aimerais citer les livres des auteurs que nous avons reçus ce soir. Albert Camus, journaliste, reporter à Alger, éditorialiste à Paris, de Mario Santos Saint aux éditions Apogée, et enfin d'Alice Kaplan, Enquête de l'étranger, publié chez Gallimard, un essai sur le Camus, auteur de l'étranger. Je regrette qu'on n'ait pas eu la possibilité de parler avec Ala Soigné, que j'avais annoncé tout à l'heure, écrivain égyptien qui voulait nous parler de Camus. On le fera, j'espère, à une autre occasion. La liaison était tout à fait impossible. Vous savez que c'est un des opposants aujourd'hui à Mohamed Al-Sissi en Égypte. Il vient de publier Le syndrome de la dictature chez Actes Sud, un livre courageux, argumenté, finalement camusien, pour lutter contre les dictatures, précisément, dont il a un certain nombre, puisqu'il s'est exilé à cause de ça. On en reste là pour ce soir. Merci Georges-Marc Benhamou d'avoir été notre invité.
Merci Frédéric.
Ce soir, et on en reste là pour cette saison d'ailleurs, puisque c'est la fin de la grille de l'année. Pour France Culture, à partir de demain matin, grille d'été, la dernière de Soft Power ce soir, et demain donc on retrouve une nouvelle grille avec tout un tas de programmes, de nouveautés et aussi de séries qui auront lieu pendant l'été jusqu'en septembre. Quant à nous, on se retrouvera donc début septembre. Je profite précisément de cette dernière émission pour saluer toute l'équipe qui m'a accompagné cette année, Zoé Sfez et Emmanuel Paquette, ainsi qu'à la réalisation Lionel Quentin, Véronique Villa, et donc depuis le déconfinement, Perret Legras. L'émission a été préparée toute l'année par Nathan Marcel Millet, avec pour les réseaux sociaux David Pata. Merci infiniment à toute cette équipe, merci infiniment à tous. À partir de demain matin, je l'ai dit, la nouvelle grille de France Culture, grille d'été, commence, et dans un instant, soirée spéciale à l'occasion du second tour tant attendu de l'élection municipale. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Nous sommes maintenant, je crois, avec Caroline Brouet et Stanislas Vazak.